Les musées de Compiègne vous présentent fièrement Écho du temps.
Bonjour, si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes venu en quête d'une réponse scientifique aux curiosités de nos civilisations. À moins que vous soyez égaré, vous cherchez à comprendre les fils qui composent le tissu de notre histoire. Et cela passe par l'aventure que nous baptisons connaissance. Prenons dès maintenant son chemin. Nous aborderons ici le cas particulier des dioramas des métiers de la Belle Époque exposés au musée de la figurine de Compiègne. Un diorama est un dispositif de présentation par le biais de la mise en situation d'un modèle, le faisant apparaître dans son environnement habituel. Dans notre cas, ce sont des figurines intégrées à une boîte décorée. Parlons d'abord du fabricant. Cet ensemble de figurines a été fabriqué par Pixie. Cette société a été fondée en 1992 par le sculpteur Alexis Polyakov et l'industriel Pierre Guénard. Cette association va permettre la création et la distribution d'une large collection de figurines allant du Tour de France à Astérix, en passant par le Petit Prince, Karl Lagerfeld, Kermit la Grenouille ou encore la chanteuse numérique japonaise Hatsune Miku. Toutes les figurines sont des rondes bosses en plomb, peintes à la main. Elles s'inspirent des soldats de plomb tout en détournant la thématique. Chaque boîte qui les contient est décorée afin de donner un paysage cohérent où la figurine prend place. Dès lors, la boîte et la figurine sont presque inséparables. Les figurines que nous aborderons représentent des personnages évoluant dans l'ambiance évoquant la France entre 1889 et 1914. Cette période se nomme la Belle Époque. Explorons-la. Dans un atelier, un peintre s'affaire à son art. Commençons par le décor de sa boîte. C'est l'intérieur d'un appartement. La grande baie vitrée attire immédiatement l'attention. Elle est au centre. Sur la droite, un escalier en colimaçon est présent. Un long rideau rouge en tombe. Des meubles sont présents dans la pièce pour accueillir le capharnaüm de sculptures et de toiles. Plusieurs figurines sont présentes. À l'extrémité gauche de la boîte, un poêle chauffe la pièce. Tandis que de l'autre côté, un jeune homme vêtu en jaune regarde la scène. À côté de lui, un autre homme en costume est assis sur un canapé rouge. Il observe les mouvements du peintre. Ce dernier porte une blouse grise avec un béret noir. L'artiste peint un nu. Sa muse est devant lui, assise également sur un canapé rouge. Le 19e siècle a fait voler en éclats la hiérarchie des genres picturaux. De nombreux mouvements s'y sont développés, comme l'impressionnisme ou le pointillisme. Ces impulsions artistiques naissent en réponse à l'évolution qu'impose une nouvelle technologie, la photographie. Changeons de métier. Le décor de l'atelier du photographe est identique à celui du peintre. Seules les figurines diffèrent. À l'extrémité gauche, le poêle est remplacé par un bouquet de fleurs. Le photographe se trouve à l'opposé, caché sous le drap noir de son appareil, un ancien modèle à chambre photographique. Un couple marié pose séparément. Le mari s'installe en premier devant un fond végétal. La photographie est très populaire à l'époque. Un concours est d'ailleurs organisé lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. De plus, Auguste et Louis Lumière, grands inventeurs français, déposent en 1903 le brevet d'un appareil photographique à couleur, l'autochrome, qu'ils commercialisent en 1907. Nous noterons toutefois que les expérimentations des couleurs débutent dès 1840. Cependant, l'aventure des frères Lumière et de la technologie se résume bien souvent en un mot, le cinéma. Changeons de décor. Nous sommes à présent dans une jungle dense. À gauche du décor, la figurine d'une femme rousse en tenue coloniale est attachée à un poteau surplombé d'un crâne squelettique. Alors qu'un crocodile, la mâchoire grande ouverte, s'approche d'elle, un homme surgit. Il se balance à une liane, seulement vêtu d'un pagne léopard et portant un couteau. Un caméraman filme la scène, tandis que le réalisateur hurle ses ordres dans un porte-voix. le cinéma marquera durablement et profondément ce siècle. Mais concentrons-nous sur la scène, le film. Nous avons clairement une représentation libre de Tarzan. C'est ce que vous pensez ? Eh bien, laissez-moi vous taquiner sur ce point. Rappelons que nous sommes à la Belle Époque, entre 1889 et 1914. Edgar Rice Burroughs, créateur de Tarzan, publie ses premières aventures en 1912. La première adaptation cinématographique ne sort qu'en 1918. Malgré un décalage entre le tournage et la sortie, nous sommes définitivement en dehors de la période. Dès lors, il faut se tourner vers l'Europe. Albert Robida est un compiénois caricaturiste, illustrateur, journaliste et romancier, né en 1848 et décédé en 1926. En 1879, il publie « Voyage très extraordinaire » de Saturnin Farandoule. Cette œuvre raconte l'histoire de Saturnin. Enfant, il perd ses parents dans un naufrage. Des singes vont alors l'élever. Il deviendra un homme remarquable. Le roman a eu une adaptation cinématographique en 1913. Les dates collent parfaitement avec notre diorama. Toutefois, c'est visiblement un Tarzan qui est filmé ici. En parlant de livres, changeons de décor. Nous sommes à présent devant une librairie. La boutique se nomme « La Maison des Amis des Livres ». Sa façade est vitrée. Cela permet de laisser entrevoir les livres à l'intérieur. À droite de ce décor, nous avons des présentoirs remplis de livres. Trois personnages sont positionnés à gauche. À l'extrémité, nous avons un homme courbé, le nez dans son livre. Devant lui se trouve une femme, tenant un livre rouge à la main. Le dernier protagoniste n'est autre que l'auteur James Joyce. Il est représenté âgé, avec une moustache grise, ses lunettes et sa canne. Dès lors, que lisons-nous à la Belle Époque? Eh bien, nous pouvons lire les œuvres d'Edgar Rice Burroughs, d'Albert Robida et de James Joyce, déjà cités, mais aussi Émile Zola, finissant la saga des Rougon-Macquart, Marcel Proust, débutant à La Recherche du Temps, Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, et Fantômas, de Pierre Souvestre, et Marcel Alain, volant dans les poches des riches. Arthur Conan Doyle, poursuivant les Sherlock Holmes et explorant le monde perdu, tandis que H.G. Wells se tourne vers les étoiles avec la guerre des mondes et les premiers hommes dans la lune. Cette période offre donc des romans marquants et des auteurs connus. Lorsqu'on aime ce qu'on voit, on le partage, et ce partage, un lieu l'incarne bien. Changeons de décor. Nous sommes devant le Café des Sports, un autre magasin et précisément un café. Cependant, le décor a la particularité d'avoir le store qui surplombe la terrasse. En dessous, nous avons le mobilier et les personnages. Un serveur apporte sur un plateau les boissons aux clients. Ces derniers sont à droite du décor. Ils se composent d'une femme et d'un homme assis à la même table. Parmi les sujets de discussion, nous avons les livres et le cinéma. Mais le développement spectaculaire de la presse permet aussi de suivre le sport et les faits divers. Pour le sport, nous pouvons citer le symbole ultime que représente la naissance des Jeux Olympiques modernes. Pour les faits divers, ils sont extrêmement nombreux. Les émotions varient entre le recueillement, pour l'incendie du bazar de la Charité, et la peur pour la traque de la bande à Bono. Vous voilà à présent détenteur de la connaissance sur les dioramas des métiers de la Belle Époque présente dans le musée de la figurine. Je vous invite maintenant à essayer de les identifier dans le musée, ainsi qu'à observer les autres figurines de cette époque dans les collections. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à découvrir les autres. Et n'oubliez pas, la curiosité est un beau défaut. À bientôt.
Écho du temps vous a été raconté par Damien Demey et fièrement présenté par les musées de Compiègne.